France Inter.
C'est la bande originale.
Ah oui, bonjour.
Vous avez Lisa, bonjour. Camille là-bas,
bonjour.
Bruno P.
Bonjour.
Olga. Tanguy,
bonjour.
Daniel Morin,
Jean-Camille,
et tout ce bon moment pour Élodie Navarre, Jacques Bébé.
Bonjour. Bonjour. La bande originale, Leïla Kaddour et Nagui.
Bienvenue et merci de venir à ce micro. Élodie Navarre et Jacques Weber, vous êtes tous les deux, et j'allais dire seuls en scène. Deux, mais seuls. Tous les deux seuls, c'est ça?
Deux, oui.
Enfermés dans une sorte de huis clos. Un énorme huis clos, parce que ça se passe dans un bunker. Et on se demande si la journaliste que vous êtes, Élodie Navarre, rencontrant ce nazi ou ce collabo des nazis, on va définir le personnage en quelques instants, si elle va s'en sortir vivante ou pas. Comment allez-vous d'abord?
Plutôt bien.
Plutôt bien, Jacques.
Oui, je me préoccupe de ma partenaire et tout se passe bien. Au-delà du rideau, enfin, avant le rideau et après le rideau, tout va bien.
Ah, il y a un after, vous vous occupez des...
Là, vous avez vu comme une torture, heureusement qu'il est un peu plus sympathique en ce temps.
J'ai un peu l'impression que la torture est assez réciproque à un moment.
Alors justement, avant de rentrer dans le vif du sujet, le sujet, c'est une interview. Elle est journaliste et elle vient faire une interview. Et donc, vous avez forcément, chacun été interviewé. Est-ce que vous avez eu des interviews qui sont mal passées ou des interviews surprenantes? Lisa Delmoitier, est-ce que tu as eu droit?
Je trouve que le problème, justement, c'est que c'est rarement surprenant.
Alors, je vais commencer parce que comme j'avais pensé, chaque fois c'est toi qui démarres et chaque fois t'es un peu piégé par...
Je me suis retrouvé un jour que ça démarre mal
devant les journalistes. Toujours, ouais, toujours. J'ai eu des remarques de la direction, donc je vais... Une personne, je vais essayer de donner aucun indice pour pas qu'on retrouve cette personne, me demande une interview, on s'installe. Alors là, bonjour, les premières questions. Alors, vous cherchez toujours à faire le malin, à faire le rigolo, j'essaie de... Oui, enfin, ça dépend. Oui, enfin, quand même, vous êtes un peu...
Ah, c'est Léa Salamé, alors.
Vous êtes un peu un guignol. Écoutez, si vous prenez comme
c'était
ça...
C'était pas en direct à la télé française, ça?
Non, du tout. C'était vraiment...
Je pense à une autre.
Presse. Donc, vous faites le mariole. Et puis, alors, maintenant, vous animez. Ah, je dis, j'ai toujours animé. Ah bon, d'accord, et depuis quand? Et donc, je me retrouve à faire ma bio. Et puis, la personne en face me dit, vous êtes né en Algérie, hein, c'est ça? Je dis, non, je suis pas né en Algérie, je suis en Égypte. Et là, je commence à me décomposer.
Ça aurait été mieux, mais...
Et voilà. Je choisis pas. Et là, la personne me dit, et vous allez reprendre des spectacles? Je dis, mais j'ai jamais fait de spectacle.
Ils t'ont pris pour Smaïn?
Exactement.
Oh, non.
Smaïn. C'est-à-dire que toute Smaïn. La bio, l'interview était préparée pour Smaïn. Voilà. Donc c'est dit, c'est un arabe,
c'est
on va prendre.
Vrai.
Je te
mais
jure.
Mais pas Smaïn.
Je te jure.
Ça fait 8 ans.
C'est
Mesraïm. Non, c'était pas Mesraïm, malheureusement.
C'est pas une caméra cachée.
Et le papier était honteux derrière. C'est-à-dire que comme si le journaliste m'en voulait de pas être qui j'étais. Ouais. T'as trouvé Lisa ou pas une interview bizarre?
Oui, mais c'est pas si longtemps que ça. Un gars qui est venu, il m'a demandé pour faire une interview avant mon spectacle. Et en fait, il avait juste imprimé ma fiche LinkedIn.
Non.
Et donc, il me lisait...
Un site internet professionnel,
ouais,
quoi. Avec,
ouais. Et donc, il me lisait juste toute mon expérience professionnelle. Donc, vous avez fait des études de journalisme. Puis, il me regarde. Oui. Et puis, vous avez... je me souviens plus. Ça fait des années que j'ai fait ce truc. Et donc, j'avais mis dans ce truc que j'avais travaillé l'été à la caisse au Carrefour. Il dit, vous avez été caissière au Carrefour? Je dis, oui, parce que c'était un job étudiant.
Zéro préparation.
Zéro préparation. Ouais, et donc, l'interview, c'était juste, oui, en effet.
On s'en rend vite compte, en tout cas, s'ils ont bossé ou pas. Camille?
Bah,
non, mais si t'as pas d'interview désagréable.
Tout court dans ma vie, ouais, non.
Non,
c'est pas vrai.
Est-ce que tu dis d'interview désagréable?
Moi j'adore parler de moi, donc.
Ou au contraire gênante?
Non, franchement, ça me dit rien. Peut-être un podcast où moi je me suis trop dévoilée, j'ai oublié
que... jamais faire ça.
Ah oui, les podcasts où.
Les photos, c'était en trop, hein.
Leïla?
Oui, une interview. C'est pas que j'ai mal vécu, mais qui était raciste, en fait, un journaliste m'a demandé.
Vous êtes en Égypte.
Vous êtes Dalida. Oui, c'est moi, Yolanda. C'est moi, là-bas, dans le noir. Non, cette personne m'a dit, très détendue, que, en gros, si j'étais dans le paysage médiatique, c'est
télé,
parce que j'étais une arabe.
Ah, ouais. La Libye.
Voilà.
Qui est un autre pays, d'ailleurs.
Et en fait, j'étais vraiment assez décontenancée et je lui ai demandé si lui, il était dans cette rédaction parce qu'il était homosexuel.
Mmh.
Magnifique,
voilà,
magnifique.
Et en fait,
il a dit oui.
Et en fait, il était très gêné. Et je lui ai dit, voilà, un point partout, ouais, on continue.
Bien
on
joué.
Ouais, voilà.
Bien joué.
L'interview n'était pas très belle à la fin.
Mais qui bah, ouais, généralement, ouais, c'est ouais. Des mauvais souvenirs d'interview. Ouais.
Une fois, j'habitais encore chez mes parents et ils me demandent où on peut faire l'interview. Donc je dis, bah, venez chez mes parents, on se pose, on boit un café et tout. Et en fait, ils sont arrivés plus tôt et je sors de ma douche et ils étaient, il y avait le journaliste et la photographe dans ma chambre.
Mais
et,
non
bah, en fait, ma mère les avait ouverts et elle savait qu'il y a un truc, mais elle était là. Et
ils avaient ouvert, pris le truc. L'or avait ouvert.
L'or avait ouvert, ouais.
Elle les avait ouverts.
Si, 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 aussi.
Merci, merci, Daniel. C'est le principal.
La Suisse,
donc ma mère, l'or avait ouvert et je débarque comme ça, ils étaient là, quoi. Donc vraiment, sans gêne.
Au-delà.
Moi, à l'époque, on était en groupe et il y a ma journaliste qui pose son petit appareil pour enregistrer. Il nous pose plein de questions pendant 20 minutes et à la fin, il va. Oh non, ah j'avais pas appuyé sur REC. Alors, si vous pouvez redire tout ce que vous avez dit, par contre, moi je vais aller aux toilettes pendant ce temps.
Oh,
donc
wow,
il part,
wow.
Et pendant les minutes où il était aux toilettes.
Tu as parlé seul devant le dictaphone.
Ah non, puisqu'on était trois et on a fait tous les bruits d'animaux qu'on connaissait.
Voilà. Tanguy, sur.
Non, rien de spécial. Enfin, moi, vous savez, c'est un peu comme vous avec Smaïn. Moi, je viens de Bretagne. Souvent, on me prend pour Nolwenn Leroy. Donc, voilà.
C'est assez trompé.
Surtout dans tes graves.
Voilà.
Daniel Morin.
Moi, c'est interview gênante, mais du mauvais côté, puisque c'était moi qui posais les questions.
Oh.
C'était en 97.
Ah.
Je travaillais pour France Bleu et je faisais l'interview d'un candidat qui avait perdu aux législatives. Et il y avait tout l'entourage qui était là. Et il y a un vieux.
On t'a confié ça.
Oui, on m'a confié ça. Il y a un vieux qui arrive et qui dit : je veux vous chanter la Marseillaise. Je fais oh. Il me tenait vraiment, il me tenait par l'épaule. Il fait, c'est bon, ça enregistre. Et c'était les nagras avec des bandes.
Oui, les grands magnétos.
Les grands magnétos. Et il commence à chanter. Et je vois qu'il ne reste plus de bandes. Et je vois que ça tourne dans le vide. Et lui qui m'a fait la Marseillaise en entier. Il fait, en réécoute. Je fais, non, j'ai pas le temps. Il faut que j'aille monter là le truc. Et tout.
En tout cas, la leçon, c'est que personne n'a voulu interviewer Daniel Morin.
C'est mon humilité.
Élodie Nava, est-ce que vous avez déjà eu des.
Alors moi, c'est.
Déconvenus lors d'une interview.
Alors là, j'ai pas de souvenirs. Mais par contre, moi, comme j'ai joué plusieurs fois des journalistes, j'ai demandé à certains copains, leur demander comment on fait pour obtenir les réponses qu'on veut, parce qu'on sait très bien que les gens savent déjouer, répondre autrement. Et ils m'ont parlé de la manipulation du journaliste, c'est-à-dire une certaine manière de mettre en confiance, d'essayer de parler d'autre chose pour peut-être obtenir la question, de prendre le temps.
De commencer par faire des compliments et être gentil.
Par exemple, mais pas
à un
que.
Moment, d'accord.
Mais j'ai trouvé assez intéressant de savoir qu'il y en a certains qui étaient quand même. C'était un art. Là,
et maintenant, vous en servez pour éviter de dire ce que vous ne voulez pas dire dans les interviews.
Tout à fait.
On verra ça d'ici midi et demi. Jacques Weber, j'imagine que vous avez dû tomber sur des journalistes qui étaient.
Très honnêtement, quand je les refuse, ceux qui me.
Oui, oui, mais il n'y en a pas une qui
s'est marquée. Non, j'ai pas un souvenir. J'ai le souvenir, oui, d'une altercation extrêmement violente. Avec ce type épouvantable, Éric Zemmour, on n'est pas couché.
Oui.
Là, ça s'est passé très
de Laurent Ruquier. Oui.
Parce que le mec te regarde dans les yeux et te dit tout ce que vous dites est extrêmement imbécile. Faut pas me parler comme ça. Et il dit vous êtes tous des bisounours. Je me souviens, enfin c'était quasiment dégueulasse quoi, franchement. Et là,
dans ces cas-là,
retenir ce que je me suis levé.
Oui, tout, mais on est à la télé. Il y a l'image qui vient en plus. Donc bah oui, est-ce que c'est le bouclier, c'est quoi? C'est l'humour, c'est.
Très honnêtement, alors moi, peut-être parfois j'ai pas d'humour du tout quoi. Quand ça me touche, ça peut, d'un seul coup, je perds tout contrôle et c'est bon. C'est un tort, c'est un tort.
Ah ouais. Ça y est, ça me revient.
Oui, c'est Jacques Weber.
Non. Mais ça y est, quand tu racontes cette histoire, me revient Hardisson. Première fois, je crois que j'avais 20 ou 25 ans.
La
peur au ventre. Et je jouais dans Gomez et Tavares, qui était un popcorn movie.
Bien sûr.
Je me souviens très bien tenir mes mains sous la table avec une espèce de pull vert pomme à me dire il faut absolument que je réponde bien, que je sois drôle.
C'est parce que tout le monde en parle.
Tout le monde en parle. Je me souviens des sueurs et je me dis, bon, j'essayais d'imaginer les trucs drôles que je pouvais dire. Et il attaque sur un accident que j'avais eu hyper grave, où j'ai failli perdre ma jambe. Et là, je me mets à parler des médecins à l'hôpital de Garches. Je mets une ambiance totalement nulle en les remerciant, en disant que le professeur Judet m'avait sauvé la vie.
Il n'a pas été méchant, là, Thierry.
Mais non, mais même Baffi ne pouvait pas répondre parce que j'avais mis un espèce de froid comme ça et je me suis dit, mais non, j'ai pas rendu.
Mais ça, c'est un exploit que Baffi puisse pas parler.
Bah oui.
Mais c'est marquant.
Théâtre de la Renaissance, l'injustice, avec cette croix gammée pour logo, le E fini en croix gammée. Dans tout Paris, on voit cette croix gammée qui fait froid dans le dos, surtout avec tous les Rolands et tout ce qui se passe.
L'injuste.
J'ai dit injustice, pardon, ouais, c'est ouais, injuste. L'injuste. Ouais, ça a commencé fin janvier. C'est une pièce d'Alexandre Amiel, Yael Béduco, Jean-Philippe Daguerre et Alexis Kébas. Ils se sont mis à plusieurs, mais c'est une histoire vraie. En fait, le parcours de cet homme a réellement existé. Par contre, l'interview est une fiction, c'est ça ?
Oui, voilà, ben, il valait mieux. En fait, cet homme a décidé de parler dans un unique et dernier interview à Péan. Et en disant, d'ailleurs après je me suicide, j'en ai marre. Et il s'est suicidé d'ailleurs devant ses enfants en se mettant du cyanure dans sa bouffe.
Ça, c'est l'histoire vraie.
Mais alors ça, c'est vrai. Ce qui est vrai aussi, c'est que oui, il était donc pro-nazi très 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 jeune, banquier suisse, et il a vu qu'il y avait une faille juridique pendant le procès de Nuremberg. Il s'est dit dans la pièce très clairement, oh là là, qui est sur... Oh, oh, c'est moi.
Ça va vous coûter cher parce que c'est tournée générale. Il y a plein de stagiaires.
C'est Eric Zemmour qui appelle.
Et là-dessus, alors, ça m'arrive jamais.
Il y a une émission qui vous appelle également.
Et donc, et alors, ce qui est fou, c'est qu'ensuite, il s'occupe des droits d'auteur de Mein Kampf. Il édite Goebbels. Il paye Vergès pour défendre Klaus Barbie.
Il était
au début du financement des attentats de Munich. Ouais, c'est ça, ouais. Et au vu et au su de tout le monde le connaît. Il est même reçu à l'Élysée lors des accords du FLN. Et tout le monde sait son passé. Et c'est ça qui est complètement exceptionnel.
Il n'est jamais condamné pour quoi que ce soit.
Et jamais. Alors, l'une des suppositions que la pièce se fait, qui est possible...
Et là, on rentre dans la fiction un peu.
On ne doit rien révéler.
Ah, si, on peut dire quand même ça. C'est qu'on pose la question, on dit, bah, comment se fait-il ? Et que c'est peut-être pas impossible que le Mossad... Et laisser le Mossad, la DST, la DGSE...
Que ce soit donc une sorte d'espionnage...
De laisser qu'autre chose. Poursuivre les ramifications de financières des... Voilà.
Ça va, Elodie, on n'en a pas trop dit. Un peu comme ça, ça l'embête, Mossad. On en parle jusqu'à...
Non, pas du tout. Mais c'est vrai qu'elle est journaliste, mais elle a une raison pour ça.
Ça, on ne va pas le dire. Ça, justement, on ne va pas le dire. Elle est journaliste juive, et c'est comme ça que ça commence, dès le début, en disant, vous êtes juive, rentrez, mais vous êtes dans un bunker, vous n'aurez pas le code pour en sortir, et elle est dans peut-être tombée dans la gueule du lion, et c'est tout ce jeu de chat et de souris qui se déroule dans la pièce dont on va parler. Mais d'abord, voici Olde Laf qui est fan d'Élodie Jacques.
Je suis fan de Jacques Weber, le plus grand acteur de l'univers. Jacques Weber en Cyrano, vous étiez si fou. Bref, je suis fan de vos rôles et de vos barbecues. Je suis fan d'Élodie Navarre, meilleure comédienne de France et d'autre part. Vous avez déjà été nommé deux fois au Molière. Je suis content, je trouve que ça sonne Navarre de Molière. Et vous êtes là ensemble pour la pièce L'Injuste. Une pièce qui pose la question du nazisme, c'est juste rime. Mais le vrai problème de la pièce, c'est le nom du gars. François Genou, il y a d'autres gens qui souffrent comme ça, comme Jean Feel Good.
Mais en vrai, c'est Jean-Philippe.
Martin Coud.
C'est ma femme, on a le fils.
Yo Coud,
c'est bien foufou.
Ouais, je suis fan de Jacques, c'est vous ma star. Vous avez été premier prix de conservatoire. C'est super, mais ça vaut pas Michel Drucker. Au fond, il a été élu premier prix de conservation. Ça doit être si dur de jouer un type aussi malsain. J'imagine comme quelqu'un devra faire Daniel Morin. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec...
Quoi ?
La bande originale.
C'est la Saint-Valentin, vendredi.
Absolument, après-demain Saint-Valentin. Profitez-en pour aller écouter la version d'Olde Laf et pour regarder le clip également.
Elle a peur, cette journaliste, quand elle rentre dans ce bunker escorté par, on imagine, des gardes du corps, des militaires. Elle a peur parce que elle se rend compte, et le physique est extrêmement important, que cette petite brindille fragile qu'elle est tombe face à un ogre imposant.
Un otari ?
Non, ogre.
Un rhinocéros, un hippopotame.
J'ai vu l'ogre parce que, et vous en jouez d'ailleurs, évidemment, de ce physique, en vous rapprochant, en vous dressant comme ça face à elle.
Ouais. Vous êtes menaçant.
On a l'impression qu'il y a un mètre de différence entre vous deux, tellement.
Mais il y a un mètre.
C'est imposant.
Et en même temps, c'est fascinant. On va rencontrer un monstre dont on connaît la carrière par cœur et on a envie de connaître le pourquoi de cette ignominie, enfin, quel est le trajet.
Et elle a bossé. Elle a bossé son dossier, elle a beaucoup d'arguments à lui présenter. Il essaye dans un premier temps de se défendre quand même en disant « Mais non, mais c'est rien, j'ai été éditeur parce qu'il faut bien éditer, voilà, Mein Kampf, les droits étaient libres, il fallait bien que quelqu'un s'en occupe. » Et puis après, ça devient un peu plus délicat sur l'or, notamment, qui sortait des camps de concentration, la masse d'or qui venait, la manière dont il était récupéré.
Ce qui est formidable de la part d'Alexandre Amiel, d'ailleurs il reprend une vieille tradition théâtrale, c'est de fictionner ou fictionnaliser des faits réels et authentiques. Shakespeare l'a fait, Brecht l'a fait, enfin tout le monde l'a fait.
C'est encore plus solide de se baser sur la réalité
sur une actualité extrêmement présente, ce qui est relativement rare dans le théâtre français. Très souvent, nous, lorsque les Américains reçoivent le 11 septembre dans la tête, deux mois après, il y a plein de pièces décrites, tout de suite représentées. En France, on est encore en train de parler de Vichy et de la guerre d'Algérie. Bon.
Parce qu'on n'a peut-être pas tout réglé non plus avec ce passé.
Ah non, mais c'est sûr. Non, mais si
j'ai
tu
pas
veux,
j'ai pas l'impression qu'on parle tant de la guerre d'Algérie que ça. Ça serait bien d'ailleurs.
Mais en fait, je pense pas. Non, mais je parle des pièces qui ont été écrites, il y en a eu beaucoup. Je dis simplement que ce qui est réel, c'est que on a du mal à s'emparer très directement d'une actualité, lors même que là, on la traverse vraiment de plein fouet.
Mais pire que ça, c'est-à-dire que j'imagine que la pièce a été écrite avant les déclarations de Trump sur Gaza et la Palestine, et qu'il y a un écho où, justement, pour retourner l'accusation que elle peut faire journaliste israélienne en disant voilà ce que vous avez fait, vous avez spoilé, vous avez volé, spoilé. J'ai dit quoi ?
Spoiler.
Okay. Voler donc, vous retournez l'arme contre elle, entre guillemets, en disant « Et vous, que faites-vous avec les Palestiniens ?»
Oui, tout à fait.
Et là, ça trouve un écho que l'on entend même tous les jours aux 20h.
Ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que la mise en question de cet homme est pratiquée donc par une journaliste israélienne, mais que cet homme est dans sa défense extrêmement intelligent, voire pertinent. C'est ça qui est épouvantable.
C'est là où il faut se méfier des monstres.
On peut même renverser presque l'histoire de la banalisation du mal. C'est-à-dire que, oui, le mal, en effet, peut être le fait d'être banal, mais lui est un personnage exceptionnel dans l'horreur et également dans la pratique intellectuelle de son boulot.
Il a sa logique.
Et puis, historiquement, c'est pas comme si l'histoire était si simple que ça. C'est pas tant qu'il est, pour moi, brillant. Il est aussi quand il rapporte factuellement des choses, il pose les gens face à leurs contradictions. Voilà.
Ce que je trouve vraiment, et vous avez vraiment raison de le dire, ce qui est très intéressant à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une radicalisation terrible. C'est-à-dire qu'on ne peut plus nuancer sur ce sujet qui brûle tout le monde. Donc, vous dites que le malheur est horrible à Gaza, vous êtes un antisémite, vous dites que, et le contraire, et vous êtes vrai. Et ça, c'est très très douloureux parce que c'est très très complexe, ça demande vraiment une connaissance très parfaite des éléments de cette histoire, et ça demande vraiment le calme pour créer, non pas une pulsion, mais une opinion. Et c'est bien là où on en est en ce moment. En ce moment, le grave, c'est que les gens s'expriment par pulsion, même dans leur vote. C'est comme ça que des mecs comme Trump arrivent au pouvoir.
Vous êtes retrouvé plongé dans l'actualité sans même le savoir. Au moment où vous avez lu la pièce, parce que j'imagine que à la lecture, la pièce se situe au moment des traités d'Oslo, la paix est encore possible, on est dans une situation qui est extrêmement favorable et peut-être une situation d'écoute, mais aussi de procès et de règlement à mettre en place. Et quand l'actualité déteint, entre guillemets, ou arrive d'une manière aussi présente dans l'esprit des gens, même ceux qui sont dans la salle entendent Gaza, la Palestine, Israël et le nazisme avec une autre perception, puisque Elon Musk fait des signes nazis, puisque la paix, on espère qu'elle soit installée d'une manière pérenne en Palestine, mais avec tout ce que l'on entend, on est très inquiet de ce qui peut se produire. C'est particulier de jouer une pièce comme ça, Elodie Navarre.
C'est particulier, surtout qu'on n'ose plus rien dire, parce que, comme dit Jacques, à un moment donné, c'est tout de suite...
C'est touchy.
Donc là, heureusement, c'est aussi un duel psychologique.
Ça veut dire quoi ? Il ne fallait pas que la pièce soit pro-palestinienne, pro-israélienne, pro-quoi que ce soit. Il fallait qu'elle soit la plus objective
voilà,
aussi.
En plus, là, c'est vraiment c'est l'histoire de ce type avec cette journaliste. Et lui, il raconte des faits.
Oui, mais est-ce qu'il y a des phrases, des lignes qui ont été changées à cause de l'actu ?
Non. Non.
Non, franchement.
Non. Peut-être de la manière de le dire. Okay. Mais non, le fond reste vraiment le même.
Et puis je trouve qu'elle ne convoque pas tant que ça l'actu, la pièce. C'est surtout
ceux qui regardent la pièce qui pourraient éventuellement
qu'on pourrait avoir des pensées. Mais dans le texte que vous jouez, vous, en fait, il y a pas tout ça.
Il y a quelques phrases quand même sur la Palestine qui sont...
Mais qui datent, c'est un conflit qui date depuis tellement longtemps.
Oui, puis aussi quand il raconte son coup de foudre pour Hitler, tout d'un coup un homme qui avait des vraies valeurs... On se dit, oh là là, en fait, ça recommence.
C'est ce qu'on a entendu sur Jean-Marie Le Pen aussi, au moment où il est mort. C'est-à-dire que d'un coup, plus personne n'avait à redire en disant, mais quand même, il avait des valeurs. On a entendu des phrases comme ça qui étaient tout aussi choquantes, en oubliant tout ce qui avait été la problématique.
C'est ce qui a fait qu'après moult hésitations, j'ai accepté le rôle parce que on est au cœur même de la relation théâtrale, enfin du théâtre, ce qui doit être. Alors il peut être du divertissement,
il peut être politique.
De toute façon, quoi qu'il arrive, il ne peut qu'interroger. Il ne répond pas, il n'est pas moraliste, jamais, il n'y a rien de pire que le théâtre moraliste.
C'est de jouer un salaud qui vous a fait hésiter ou pas ?
Comment ?
C'est de jouer un salaud qui vous a fait hésiter ?
Non, c'est ce que l'on allait en dire, c'est presque le commentaire qui allait tourner autour, et les approximations des commentaires. Et parce que il faut quand même se rendre compte qu'il y a un truc extrêmement complexe, c'est que les arguments pro-palestiniens, pour être très clair, sont plutôt pertinents et justes.
Bien sûr.
Ça ne veut pas dire qu'on est pour ou contre, c'est pas ça. Mais dans factuellement, ils sont justes.
Absolument.
Et d'un seul coup, c'est un nazi qui les prononce.
Oui.
Donc là, il y a... c'est pas pervers, mais il y a une...
Mais si.
Ça reflète aussi ce qui se passe en France.
Et alors donc, je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec toute cette complexité qui est là derrière un entretien comme ça, qui a l'air d'une violence extrême, il y a quelque chose de complexe dans la pensée qui est proposé. Et donc moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on interroge le public, on ne prend pas de parti... À vous de vous faire une opinion, à vous-même de hurler à la sortie si vous le souhaitez.
On va continuer d'en parler jusqu'à 12h30, mais d'abord voici Lisa Delmoitier.
Ah oui.
Alors, L'injuste est au théâtre de la Renaissance. Vous n'auriez pas écrit, vous, cette pièce comme ça, sur cette histoire vraie ?
Non, Nagui, non. C'est juste que c'est une autre époque, quoi. En 93, si tu voulais t'entretenir avec un sympathisant nazi, tu pouvais juste te rendre dans un bunker. Ensuite, voilà. Mais aujourd'hui, si tu veux t'entretenir avec un mec qui a un coup de foudre pour Hitler, écoute Kanye West dans ta Tesla. En fait, c'est assez simple, finalement. En 2025, tu peux juste faire un tour sur X. Ça coûte moins cher qu'un aller-retour pour la Suisse. Tu ne ramèneras juste pas de Toblerone géant du Duty Free, mais c'est pas grave. Pour ça, on peut toujours demander à Bruno Pecky, en parlant de Suisse, qui a une gueule de sympathisant nazi.
Mon chat, c'est vrai.
Quelle horreur.
Tanguy, on a parlé hier, je ne veux pas m'éterniser sur le sujet. Elon Musk, c'est les nazis, et Kanye West qui se déclare fan d'Hitler, mais ça prouve juste à quel point la pièce L'Injuste est malheureusement d'actualité. Le nazisme est de nouveau à la mode, quoi. Moi qui me plaignais du retour de la coupe mulet, je ne mesurais pas ma chance. Kanye West, ça fait longtemps qu'on l'avait perdu, mais je vous avoue que son basculement côté national-socialiste de la force est très compliqué à gérer pour moi, parce que j'ai été une grande fan de Kanye West. Pour vous dire, j'ai carrément plusieurs de ses albums en vinyle. Donc j'ai été fan d'un nazi, mais en plus je suis une connasse qui a des vinyles. Je suis née en 91, qu'est-ce que je fais avec des vinyles ? Moi je me dégoûte, quoi. Cette nostalgie du passé qu'ont les hipsters, sérieux, les vinyles, les appareils photo analogues de nos grands-parents, c'est quoi la suite ? Le nazisme ? Ah ben oui, merde. Et votre personnage, Jacques Weber, donc son lien avec les nazis, son coup de foudre pour Hitler, ça fait qu'il est détenteur des droits d'auteur d'Hitler, de Goebbels, on l'a dit, il a aussi financé la défense de Klaus Barbie, bref, c'est un type atroce. Dieu merci, c'est du théâtre, c'est pas la vraie vie. Si, c'est la vraie vie. Okay. Mais oui, oui, c'est une vraie personne qui a vraiment existé avec un parcours sombre et complexe. On l'a dit, moi, ça m'interroge au point que je suis allée regarder une interview de ce mec sur YouTube. Et je le dis au micro de France Inter pour avoir une excuse le jour où on fouillera mon historique. Sur ce nazi, c'était une recherche documentaire, bien sûr, pour une chronique, pour une pièce avec Jacques Weber et Elodie Navarre. Quoi ça, monsieur l'agent? Pourquoi j'ai aussi regardé la vidéo Une jeune fille, une caserne désaffectée et 12 pompiers? Mais c'est aussi pour la prochaine pièce de Jacques Weber et Elodie Navarre. Ça s'appelle pas l'injuste, ça s'appellera le Canadair. Face à 12 sapeurs-pompiers, n'importe quelle demoiselle se transforme en Canadair. Hein. Un tel niveau d'humidité, ça vous sauve toute la Grèce en plein été. Et c'est effrayant de se dire... Et c'est effrayant de se dire que sans devoir aller jusqu'à des extrêmes comme ce François Genoux, beaucoup de gens sont encore attirés par des figures destructrices juste parce qu'elles sont pas, elles font pas comme les autres, quoi. Kanye West, il croit qu'il est anti-système parce qu'il est antisémite. Tu veux être anti-système, ben arrête de vendre des pompes faites en Chine à 500 balles déjà. Donc arrêtons d'être cons et sur ce, je vous laisse. Je dois faire une partie de frisbee avec un vinyle à terminer.
Merci Elisabeth Moitié. Est-ce que vous aussi vous avez hésité, Élodie, à interpréter ce rôle? Parce que on va pas le révéler, il y a un twist dans même plusieurs dans la pièce. Mais
c'est quoi un twist, pardon?
Un retournement de situation.
Oui, tu sais, je n'ai plus 20 ans.
Mais si, mais le twist, vous l'avez connu, mais vous l'avez dansé, vous.
On dit un nœud, quoi.
Ouais, ou un retournement de situation. C'est-à-dire qu'il y a, et même les deux personnages évoluent dans leur assurance, dans les propos qu'ils portent et qu'ils tiennent, et dans la révélation que chacun fait sur le parcours de l'autre. Et c'est ça qui est fort. Mais c'est comme une intrigue, votre personnage, juste l'histoire de votre... On sait que l'histoire du personnage de François Genoux est une histoire vraie. Vous êtes totalement issu de la fiction, et nous recevrons d'ailleurs tout à l'heure l'auteur, Alexandre Amiel, à ce micro. Et cette fiction repose sur une véritable enquête policière.
Mais moi j'aimais le duel psychologique, et l'idée de jouer avec Jacques Weber, c'était quand même
c'est un luxe.
Vraiment, oui. J'allais quand même rencontrer un homme avec lequel j'allais pouvoir partager ma passion.
Et ce personnage que vous incarnez, donc, il faut être entre guillemets fraîche dès le début, naïve.
On va dans un bunker et on va interroger un monstre dont on connaît les ignominies par cœur. Et on veut obtenir quelque chose.
On a peur pour sa vie, déjà. Est-ce qu'il va nous tuer ou pas?
Il en joue, lui. Il joue à lui faire peur.
Il n'aime pas les juifs.
Son parcours personnel, elle doit y arriver. Ouais. Donc c'est intéressant de jouer la peur sans la montrer. Lui, il la sent, évidemment. Maintenant, on a toujours. Évidemment, je me suis dit, mais est-ce que ça se voit qu'on ait peur de l'intérieur? Parce qu'on ne peut pas jouer la peur comme ça. Enfin,
moi, je l'ai vu, pardon. Il y a deux, trois moments où il se lève, où il s'approche, on voit que vous n'êtes pas rassuré. Oui.
C'est vrai que nos deux corps aident vraiment.
C'est au théâtre de la Renaissance avec cette pièce. Vous savez déjà jusqu'à quand vous jouez cette pièce? Il y a déjà une date où c'est jusqu'en juin Il n'y a pas d'arrêt particulier.
Ça continue, mais on ne sait pas encore exactement.
Ouais, pour l'instant, il y a un truc vers mi-mai, puis après on verra si on continue. C'est plein, c'est magnifique. Ce qui nous arrive est incroyable.
Vous sentez de la gêne par moment dans le public, parce qu'il y a des horreurs quand même.
Le silence est bruissant. oui, je pense qu'il y a quelque chose mais une gêne qui fait partie du jeu théâtral.
Oui, et qui fait qu'on en parle en sortant. Du mardi au samedi à 19h, le dimanche à 15h, l'injuste. La date que j'ai, moi, pour l'instant, c'est jusqu'au 4 mai. À suivre, et plus si affinité. Et Alexandre Amiel, co-auteur de cette pièce, viendra nous en parler à ce micro. Voici Camille Lavard.
Bonjour tout le monde. Il y a quelques jours, j'ai assisté à un match de l'OM au Vélodrome à Marseille. Et alors, voir jouer la meilleure équipe du monde à domicile, oh là là, c'est quelque chose. Ça change un peu d'ici aussi. Surtout qu'on a gagné le match. Bon, après, c'est vrai que c'était contre une équipe clairement plus faible, qui a jamais vraiment fait de résultats, avec beaucoup de difficultés en ce moment. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Lyon. Non, pardon, mais tout est dans le nom. Je rappelle à ceux qui connaîtraient pas l'histoire du foot qu'à la base, OL, ça veut dire Objectif Ligue 2.
Bravo. Vrai, moi non plus, je connais pas l'histoire du foot. C'est juste que j'ai un co-auteur stéphanois. Bon. Je dois vous avouer que perso, j'étais pas vraiment là pour regarder le match. Non, j'étais là pour regarder les tribunes. Parce qu'il est là, le vrai spectacle. Elle est là, la vraie performance. Chez les supporters. Mais attention, les vrais, les fidèles, les ultras. Pour moi, ce soir-là, c'était pas Adrien Rabiot, la star. Non, c'était Aurélien Rebou, 45 ans, torse nu, en sueur, ivre-caisse, à moitié au sol, et avec une dentition, ma foi, comment vous dire...
Baroque.
Clairement, l'effectif n'était pas au complet. Hein. Le gars est tellement fan de foot, même sa bouche, elle joue en 4-4-2. Et bien sûr, Aurélien, le visage peint en bleu et blanc. Un genre de Mel Gibson dans Braveheart. Sauf qu'au lieu de se battre contre des Anglais, lui, il lutte contre l'orthographe, quoi. Ah oui, je voulais, je t'assure, je l'ai entendu parler à la mi-temps. Franchement, heureusement que OM, il n'y a que deux lettres. Mais qu'importe, parce qu'il était là, Aurélien. Il était là, heureux, parce que l'OM a gagné, parce que l'OM a marqué plusieurs fois. Aurélien, il a une passion et il la vit à fond toutes les semaines. Et je me suis dit, mais quelle chance. Alors vous me direz, mais de quoi tu parles? Toi aussi, tu vis de ta passion. Toi aussi, tu vibres toutes les semaines quand tu as la chance de venir faire ta chronique dans une des émissions les plus écoutées de la première radio de France.
La plus écoutée, s'il te plaît.
La plus écoutée. De montrer ton talent à des millions d'auditeurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'aime bien qu'on a Guy ri à une de mes blagues, mais pour autant, je vais pas me mettre torse nu, quoi. Alors que quand c'est Leïla...
Ok, Bichette.
Non, franchement...
Vas-y, ris.
Je fais que ça. J'ai trop de couches à enlever. Non, franchement, dans la vie, tu me verras rarement sain à l'air en train de hurler « Adrien !» Surtout depuis que mon ex a déménagé, mais bon. Mais en fait, j'ai l'impression qu'avec l'âge, on réduit notre amplitude émotionnelle. On manifeste jamais de grande joie. Bon, peut-être faute de grande joie, mais parfois on minimise. Il nous arrive un truc vraiment génial et on est là, ouais, c'est cool. On préfère être blasé plutôt qu'heureux. Et c'est là où j'envie ces supporters. Eux, ils vivent pleinement leurs émotions. Eux, ils ont des pics d'euphorie. Eux, ils ont pas besoin de... Comment t'appelles ça, Daniel, déjà? Là? Kétamine? Ouais, voilà, c'est ça. Non, eux, ils ont naturellement des montées d'extase. C'est magnifique. Et à chaque match, ils vont être soit fous de joie, soit complètement démoralisés. Voilà. Et la semaine d'après, ça commence. Alors, bien sûr, en fonction de l'équipe que tu soutiens, tu pourras être plus ou moins plus souvent démoralisé ou fou de joie, mais on a dit qu'on parlerait pas de Montpellier. Bref, les amis, arrêtons de juger les gens heureux, peu importe d'où provient leur bonheur. Arrêtons aussi de penser que c'est ringard ou pathétique de ressentir pleinement une émotion positive, de se réjouir. Arrêtons de penser qu'on est au-dessus de ça, au-dessus de la joie. Alors, exprimons notre jouissance. Exprimons-la à plein poumon. Faisons du bruit, faisons-la résonner et sur surtout, allez loin, m'enculé!
Camille là-bas, la musique est présente, du moins il y a le début de cette pièce qui, en tout cas, installe l'ambiance de tension. Ah, oui.
Ouais.
Ah, vous êtes sur scène.
Ah, ouais. Ça y est, c'est à vous, Jacques.
Et il faut préciser qu'avec cette musique aussi, il y a dans la mise en scène, on parle du bunker, mais il n'y a pas simplement trois feuilles de décor qui rappellent le béton, il y a aussi une projection.
Cette scénographie de Camille Duchemin.
Et mise en scène de Julien Cibre. Voilà.
Oui, mais là, je voulais parler de cette ouverture qu'il y a. On est dans un bunker, oui, mais il y a des images qui passent. Et il y a aussi cette caméra qui vous permet d'enregistrer. Et par moment, on va passer justement de la mémoire et des archives à la réalité, c'est-à-dire à cet ogre qui est, même si vous n'aimez pas ce compliment dans ma bouche, cet ogre qui est filmé. Non, mais j'ai été surpris à un moment donné. J'ai dit, mais ok, là, donc la caméra fonctionne. On est revenu dans le bunker. Elle est journaliste. Elle est en train de le filmer. Peut-être pour avoir l'interview du siècle, la révélation et les confidences, et peut-être le faire craquer aussi pour qu'il reconnaisse tout ce qu'il a pu faire. Sauf qu'il reconnaît tout ce qu'il a fait, mais en l'assumant totalement.
Ah, mais complètement. Il n'y a pas l'ombre d'un regret, si ce n'est d'être vivant après la mort de sa femme. C'est la seule chose, la seule petite part humaine qui sort sur une petite phrase comme ça. Mais sinon, non, il a absolument aucun regret. Ça, il est prêt à soutenir sa thèse, quoi.
Et il va rentrer dans la tête de la journaliste. Il va commencer à démonter tous ses raisonnements pour la manipuler.
Et là, il va nous la faire découvrir. Mais là, on ne peut pas...
C'est le fameux tournant dont nous parlions tout à l'heure. Le retournement.
Le twist.
C'est le twist. Parlons français, s'il vous plaît. au théâtre de la Renaissance, Élodie Navarre. Vous étiez partie ailleurs, là, on est d'accord dans votre
regard. Non, mais c'est vrai qu'elle arrive forte de tous ses dossiers, de tout ce qu'elle va lui mettre en face, et finalement, il est mille fois plus fort qu'elle. Je veux dire, sa monstruosité
c'est
et sa
dit,
manipulation.
C'est pas dit, parce qu'il y a plusieurs retournements, donc
c'est vrai,
on dit
mais
pas,
enfin,
on dit
le principal, il est quand même très violent.
Mais c'est un bras de fer de deux esprits forts qui se rencontrent, l'un du mal, l'autre du bien, et cette qui va manipuler l'autre, comment ils vont s'en sortir dans ce
et puis
ce
comment
bras
ne pas répondre à un négationniste, à un révisionniste, comment faire quand on ce qu'il dit, parce que le public réagit pour moi hein, parfois.
Et on parle beaucoup des justes, et c'est sûrement la raison pour laquelle le titre de cette pièce c'est L'Injuste. On en parlera avec Alexandra Miel dans quelques instants. Mais la musique dans vos vies a compté également, Élodie Navarre, vous, dans le début des années 80.
Ah bon ?
Il y avait du Marlène Dietrich à la maison.
Ah c'est beau, c'est sublime. Ah, moi c'est beaucoup plus con que ça, je peux te dire.
Je pense qu'elle voulait faire passer un message germanique.
Pourquoi cette musique, Élodie ?
Déjà parce que voilà, moi j'ai une mère autrichienne. Et avec mon grand-père, ils adoraient écouter Marlène Dietrich. Et j'ai été bercée par les accents germaniques. Romy Schneider, ma mère était à l'école avec Romy Schneider. Et surtout qu'elle parle des soldats qui partent et qui ne reviendront pas de la Seconde Guerre mondiale.
La famille est venue voir la pièce ou pas ?
Ma mère est venue, ouais. Ouais, ouais. Et voilà, et ça m'émeut toujours les voix qu'on a connues parce que sa mère ou son grand-père les écoutait.
Ouais, c'est une musique, la voix de ses parents, absolument.
Et vous connaissiez tous les rôles de Romy Schneider par cœur, enfant, c'est vrai ?
Alors, en Autriche, comme j'y passais tous mes étés, il y avait les Heimatfilms, qui sont les films de chez nous, un peu à l'eau de rose que jouait Romy.
Vous parlez allemand ?
Je parle couramment, oui.
C'est pas la peine de mourir avec vous. C'est pas désagréable.
Non, mais je veux dire que j'ai passé.
Vous avez mis l'accent, on sentait que c'était. Vous maîtrisez l'allemand.
Oui, je maîtrise.
C'est pas mon cas d'ailleurs. À un moment, j'ai une phrase en allemand.
Vous avez des phrases en allemand, bien
sûr. C'est un peu compliqué.
Jacques Weber, vous écoutiez en 79.
Je donne toutes mes différences. Tous ces défauts qui sont autant de chance.
La plus belle chanson sur l'amitié, c'est ce que disent Michael Jones et Jean-Jacques Goldman de cette chanson « Je te donne ». Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous ?
Je te donne tout ce que je suis, c'est magnifique. Enfin, c'est un ode à la fraternité. Et puis je pense que... Mais ce qui est terrible, c'est que ces chansons-là sont si célèbres qu'on n'ose plus les choisir lorsqu'on nous demande à préférer.
Et qu'on peut en oublier le propos. Parce que c'est sur la différence, c'est sur la complémentarité de chacun.
C'est ça qui est magnifique, c'est ça qui est absolument magnifique.
L'enrichissement que l'on peut apporter.
À l'époque, c'était une interrogation, une proposition, une réflexion qui n'était pas trop passée dans les chansons.
Et en 79, vous devenez le plus jeune directeur de théâtre de France. Vous prenez la direction du Centre dramatique national de Lyon.
Ouais.
Vous êtes à la tête d'une grande maison, d'une grande institution, et un jour, quelqu'un, très rapidement, vous pique là où il ne faut peut-être pas vous piquer. Une comédienne qui doit jouer quelques semaines plus tard à Lyon, dans votre salle, et qui ne peut pas, et elle vous dit « je suis souffrante ».
Ah oui, c'est une histoire magnifique, c'est la très grande Magali Noël, et qui me dit « écoute, je peux pas, je suis malade, je suis impossible ». Mais toi qui étais acteur, tu peux comprendre. C'est-à-dire que dans la tête des gens, le fait que je sois directeur de théâtre faisait que je n'étais plus acteur.
Oui, oui.
Ça m'a rendu... Vraiment, ça m'a énormément atteint. Et c'est à partir de ce moment-là que je suis rentré dans une aventure folle qui consistait à rentrer en scène sans savoir du tout ce que j'allais faire et tenir le coup pendant une heure et demie.
Deux heures
après,
sans savoir.
C'était le spectacle seul, etc. Oui. Voilà.
Voilà, c'était une histoire de se remettre en selle comme ça, de retenter.
Voilà. Ouais.
On va passer directement à 2022, Élodie Navarre, vous écoutiez. On parlait justement de retourner en scène ou d'être seule en scène. Mmh. C'est justement, Leïla, ce qui s'est passé pour Élodie Navarre.
Dans une pièce très forte de Suzy Miller, mise en scène par Géraldine Martineau, vous incarnez une... j'étais venue vous voir, une avocate pénaliste qui défend des agresseurs sexuels. Et
Jusqu'au jour
où elle-même subit une agression sexuelle. C'est Prima Facie, c'est le nom de la pièce.
Ouais.
C'est un texte hyper fort qu'il fallait tenir vraiment de bout en bout dans des situations dures.
Ah oui, ça m'a passionné. Ça m'a passionné de voir comment cette avocate avait donc écrit comment on les défend, les agresseurs sexuels, sur quoi on appuie, comment déstabiliser l'adversaire, et de se rendre compte que cette même femme agressée doit à son tour se défendre, mais elle connaît sur quoi vont appuyer les mécanismes, donc elle se fait complètement engloutir par le mécanisme et elle comprend mieux comment en tant que victime on ne peut pas se défendre.
Ce que vous expliquez sur les interviews tout à l'heure, le mécanisme de l'interview, le mécanisme de la défense, c'est ça ?
La manipulation toujours.
Mais là, c'est horrible. Ouais, c'est horrible.
Jacques Weber, vous, vous écoutiez Juliette Armanet en 2022. Quand elle a fait cette reprise, imagine. Là, on est plutôt en 24 pour les Jeux Olympiques. C'est sa voix ou c'est le propos de la chanson, là aussi ?
C'est un ensemble, c'est un hommage à la formidable cérémonie d'ouverture et qui a presque bénéficié de la pluie, j'ai trouvé, parce qu'il y avait une dramaturgie colossale. C'est pas ce que Thomas Joly pense, que le pauvre, il était en larmes.
Non, au moment où c'est arrivé, mais vous savez, là où on s'en est rendu compte, je vous interromps deux secondes, techniquement, par exemple, le show de laser de la Tour Eiffel était plus beau avec la pluie, et le technicien du laser était ravi, parce qu'on voyait beaucoup mieux les faisceaux que s'il n'y avait pas eu de pluie. Généralement, laser, on a besoin de fumée pour qu'on voit les rayons.
Il y a des choses qui manquaient, mais c'était vraiment sublime. Et puis moi, Herman... J'adore, je l'ai vu débuter dans une émission de télé, elle était avec moi dans une émission de télé, et elle dégage une espèce d'énergie avec sa toute petite voix un peu fine, comme ça. Alors, c'est pas elle qui a le mieux chanté, imagine, hein, soyons clairs. Et il y en a d'autres qui l'ont chanté merveilleusement bien. Mais elle, c'est très très doux, et je me souviens de cette image de bateau, comme ça, qui glissait, au même moment où après, il y avait ce cheval d'argent. C'est vraiment une chose qui m'a énormément touché. Et puis alors, imagine, je crois, si on peut faire des classements, c'est une des 3-4 plus belles chansons de toute l'histoire de la musique.
Avec celle
la mélodie,
avec celle aussi et les propos, avec celle d'Alain Souchon. Et si en plus il n'y a personne, autrement dit, est-ce qu'il y aurait autant de guerres, autant de morts si on n'interprétait pas le propos de Dieu d'un côté ou de l'autre avec des extrêmes, encore une fois c'est pas Dieu qui pose un problème, ce sont les extrêmes et est-ce qu'ils en font
Dieu, oui, les religions, non.
Voilà.
On est bien d'accord.
En 2022-24, qu'est-ce qui se passe là dans la carrière de Jacques Weber ?
Eh bien, vous êtes célébré, Jacques Weber, avec un Molière d'honneur.
Oh là là, oui, ça fait vieux, machin.
Non, c'était très émouvant.
Vous êtes sensible à ces honneurs ? Sincèrement.
Sincèrement, oui et non. Bon. Oui, parce que...
Bah, vous l'étiez le soir même. Bah ouais.
Mais, c'est un comédien. Et puis c'était Laetitia Casta qui me remettait ce Molière d'honneur. Et elle a dit des choses très jolies, et puis elle est magnifique. C'est une dame magnifique. C'est pas qu'un corps sublime, c'est une dame, un personnage formidable. Mais non, je dis non aussi parce que je relativise énormément ça, parce que je connais tellement d'acteurs dont vous ignorez même les noms, qui sont des acteurs... Moi, en ce moment, on dit monstre sacré, machin, etc. Bon, ça, c'est touchant, c'est gentil. Mais si vous saviez le nombre d'acteurs que j'ai vus qui me foutent des complexes et que vous ne connaissez, vous ignorez le nom, c'est...
Si on les connaît, mais on ne peut pas les inviter parce qu'ils sont pas assez
connus. Mais vous rendez compte, et ça, moi, ça me... je n'oublie jamais ça. Je dis, bon, bah, ça me fait plaisir, très bien. Mais il y a tellement de gens merveilleux qui ne sont jamais récompensés.
Oui. C'est ce qui est merveilleux chez Jacques. Il va voir les autres, il est curieux des autres. Il a une connaissance des acteurs, mais vraiment incroyable. C'est-à-dire que, non, mais vous intéressez à énormément de spectacles.
C'est la seule façon de progresser, quoi. C'est tout, c'est aussi bête que ça.
Vous avez encore à apprendre ?
Ah bah complètement. Non, mais moi j'apprends avec Élodie, là, tout le temps. Tous les soirs, on n'arrête pas de se rebriefer. Et puis... Je suis jamais content.
Et quand vous ratez un truc, vous êtes...
Je suis jamais content, je retravaille tout le temps.
Cette pièce que vous portez tous les deux au Théâtre de la Renaissance, L'Injuste, signée Alexandre Amiel qui nous a rejoint. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Oh, il est là. Quelle surprise. Ça va.
Vous êtes... Il ment sur le dos depuis des mois, il se dit, on est tranquille, on vient chez lui.
Il vient tous les soirs il vient.
Je lâche rien.
Il est passionné par ça.
Comment vous avez découvert la vie de ce François Genoux qui a véritablement existé ?
Une sorte de passion pour les nazis. Non, plus sérieusement.
Depuis toujours.
Non, moi je viens du documentaire, je viens de l'information. Et en fait, quand j'ai décidé de faire.
Et de l'agence CAPA. Caméra subjective, pardon, pas CAPA, caméra subjective.
Et je suis passé par CAPA.
C'est pour ça, d'où le lapsus, pardon.
Et on s'est même croisé à Canal dans une autre vie. Et quand j'ai voulu faire la bascule sur la fiction, en fait, j'avais vraiment envie de commencer par quelque chose qui était un peu proche de moi. Et ce qui m'a intéressé, c'était d'aller sur un personnage que j'appelle connu-inconnu. C'est-à-dire un mec, normalement, quand les gens sortent de la pièce, ils disent « Mais comment ça se fait que j'ai jamais entendu parler de ce mec-là ?»
Exactement. Et comment ça se fait que le scandale n'est pas éclaté plus tôt ?
Ben c'est toujours rigolo. Moi, j'ai fait du journaliste d'investigation. J'étais journaliste au Vrai Journal, j'étais à CAPA. Et en fait, parfois, on sort des choses, un sujet, on se dit « Là, va se passer un truc. » Et puis, le sujet passe. Et puis, le lendemain... rien ne change.
Oui. Comment l'expliquer?
Ben parce que le métier de journaliste ou même dans une pièce de théâtre, c'est pour citer Kessel, c'est de mettre la plume dans le sang. Mais après,
quand je dis comment expliquer, c'est comment se fait-il que cet homme où tout est avéré sur la manière dont il a fait sa fortune, sur l'argent des nazis, en spoilant les juifs, avec l'or pendant la guerre, en éditant Mein Kampf, enfin, je veux dire, il coche toutes les cases du gars qu'on veut condamner.
Alors, c'est exactement pour ça que j'ai décidé d'écrire une pièce et pas de faire un documentaire. C'est que je me suis dit, comment ça se fait que ce mec est mort dans son lit? C'est pas possible. Donc, j'ai trouvé une explication qui est possible, qui est pas probable. Et en partant de cette explication-là, j'ai décidé de faire une pièce. Donc c'est en partant de la fin. Alors évidemment, je peux vous l'expliquer de façon... Il y a plein de scénarii sur le fait qu'il n'ait jamais été arrêté. Il aurait rendu des services au KGB, il aurait rendu des services à la CIA. Il y a plein de scénarii possibles. Il était vraiment à la frontière de plein de mondes. C'est le monde de la guerre froide, c'est le monde de l'après-guerre. Donc où les choses sont jamais tout blanc tout noir quoi. C'est ce qu'on raconte dans la pièce. À un moment, le lendemain de la guerre, les Américains se sont alliés avec les nazis parce qu'il fallait combattre le communisme. Voilà, la raison d'État a ses raisons et parfois
c'était plutôt pour s'allier d'un côté que pour attaquer de l'autre. C'est ça.
Voilà. Et puis comme il a
toujours
su.
C'est là où il est intéressant ce bonhomme parce qu'il est hyper complexe en fait sur plein de sujets. Moi, je suis allée voir comme Lisa son rôle avec le FLN par exemple. Comment il a financé, comment il avait des connaissances. C'est complètement fou en fait que ce personnage soit passé sous les radars.
Ben voilà. Mais maintenant, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas,
si ça lance
on le
débats.
Met dans la lumière.
Ouais. Oui. Et vous créez de toute pièce le personnage qui va lui faire face. Là aussi, il fallait rajouter une intrigue presque policière autour de ce personnage.
Il fallait en faire une pièce de théâtre, encore une fois, pas un documentaire. Si c'était la biographie de François Genoux, il n'y avait pas d'objet théâtral, il n'y avait pas de raison de convoquer ces merveilleux acteurs. Il fallait qu'ils aient quelque chose à jouer, il fallait qu'ils aient une pièce à raconter. Et il se trouve que c'est un cadre.
Il fallait un suspense.
Il fallait qu'il y ait une. C'est une arène, le réel. Mais après, d'ailleurs, ce qui était assez drôle dans tout le travail de la pièce, c'est que finalement, eux, ils étaient un peu terrifiés par le réel. Donc moi, qui viens du réel, j'étais en train de leur dire « Non, mais c'est pas grave, on peut fictionner ça, on est au théâtre. » Et eux, ils disaient « Oui, mais on peut pas dire ça, ça s'est pas passé comme ça. » Donc on était un peu à front renversé,
non, mais
parfois.
En le ramenant aussi, et on le disait tout à l'heure sur la guerre sans fin entre Israël et la Palestine, sur le sujet du territoire, sur la place des Palestiniens, sur ce vivre ensemble qui a quand même existé un jour et on se demande si ça peut exister à nouveau. Là, vous faites vraiment écho avec une actualité. Il y a des termes qui ont été employés de génocide. Alors, certains étaient choqués par l'emploi de ce terme qui fait essentiellement référence aux nazis, même s'il y a eu des génocides au Rwanda, dans énormément de pays où on a voulu exterminer des populations entières. Là, vous avez envie que votre plume serve aussi une réflexion dans l'actualité, pas uniquement dans le passé.
Oui, mais enfin, c'est on a daté la pièce en 93 parce qu'il se trouve que Genoux, il meurt en 96. Mais 93, c'est les accords d'Oslo. Et 93, c'est un moment où n'importe quel esprit normalement constitué peut commencer à entrevoir la paix. Je veux dire, cette poignée de main, elle existe, elle a existé. Donc, moi, je suis né en 74. J'avais 20 ans. C'est pas rien, quoi. C'est pas rien de se dire à 20 ans, tiens, peut-être on verra cette paix de notre vivant, etc. Et finalement, c'est Genoux, il matérialise le combat contre cette paix, puisque finalement il a soutenu l'extrême droite, l'extrême gauche. Il a surtout beaucoup trafiqué, parce que ça aussi, c'est de l'or, des matières premières. Mais voilà, ce mec là, ne peut pas se nourrir de la guerre, se nourrir de ce chaos.
Ce que je voulais vous entendre m'expliquer, c'est pourquoi ce personnage de fiction qui rend justement l'objet pièce de théâtre et pas uniquement documentaire, pour vous, forcément, il est fait pour nous faire réfléchir aussi. Sur
ah bah,
quoi?
Ah bah c'est sûr. C'est
qu'est-ce que vous voulez que les gens disent? Bah
c'est une surface projective, François Genoux, pour moi. C'est rien d'autre. C'est à un moment, il est le catalyseur de toutes les haines du siècle. Il a été partout. Il y a eu des attentats, des bombes, des régimes dictatoriaux. Mais tout ça caché derrière parfois des causes réelles, que ça soit le nationalisme arabe ou que ça soit la décolonisation, tout ça c'était des combats.
C'est là où c'est ambigu, parce qu'en fait, quand en Algérie, on peut se dire, voilà, oui, mais... on est sur un front de libération face à un colonisateur. Donc c'est sûr, c'est là où ça devient passionnant.
Mais oui, mais c'est pas après, simplement ces gens-là savent se saisir aussi de causes,
oui,
de causes justes parfois, mais leurs motivations, elles sont malheureusement moins jolies, oui, et moins idéalistes.
Il se retrouve reçu avec les honneurs.
Tout à fait, il est reçu dans la cour de l'Élysée, était dans la délégation du FLN. Ça a été un porteur de valises du FLN. Mm-hmm. Ça a été le banquier du panarabisme. Et voilà, avec plein d'autres choses qui vont avec.
Alexandra Miel signe avec Yaël Berdugo, Jean-Philippe Daguerre, Alexis Kebas cette pièce, et surtout a réussi à ce que Elon Musk fasse la promotion de cette pièce. Ah, mais de toute façon,
c'est toujours comme ça. Vous savez bien qu'ils sont partout. Donc Elon Musk a été tout à fait convoqué pour faire la promotion.
Quelle réussite, quel budget. Théâtre de la Renaissance à 19h, la pièce.
Très grande institution, le Théâtre de la Renaissance.
Ouais, absolument. Moins Elon Musk, mais beaucoup. Merci d'être venu à ce micro, Alexandre, et bravo pour cette pièce. Voici Bruno Pecky.
Salut les anciens. Je me rends compte que les Français connaissent très peu la politique suisse. Voilà, la preuve, est-ce que quelqu'un autour de la table pourrait me dire le nom de la présidente suisse?
Il y a une présidente?
Et oui, on a un président, et oui, c'est une femme. Quelqu'un connaît son nom?
Non.
Elle s'appelle Yvonne Schmidt.
Oui, bon.
Voilà, cette information est complètement fausse, je viens d'inventer un nom, mais votre nom d'action prouve à quel point vous n'avez jamais entendu parler de notre présidente. En réalité, c'est Karine Keller-Souter. Oui, parce qu'on a un pays derrière, mais on a quand même déjà réussi à faire élire des femmes. 7 même, mais bon, qui compte? Non, mais qui compte? Enfin, vous en avez combien, vous, déjà? Bon, bref. Je trouve fou que vous ne connaissez pas notre politique, alors que nous, on connaît les noms de vos présidents, de leurs femmes, même de leurs maîtresses. Hein. Maîtresse sexuelle ou maîtresse d'école. Parfois même les deux, quoi. Donc, bref. Et si je vous parle de politique suisse, c'est parce que dimanche dernier, on a été appelé à voter. Parce que oui, en Suisse, on vote beaucoup. Pas autant que vous changez de gouvernement, mais pas loin. Et ce dimanche, la votation s'appelait « Pour un respect des limites planétaires ». C'était la première fois qu'un pays entier a voté sur l'idée de fixer des limites écologiques à son développement économique. Et tenez-vous bien, le résultat était écrasant. 70% des Suisses ont dit... Non, on veut pas. Les limites sont faites pour être dépassées. Voilà, je sais pas si c'est le peuple suisse qui a voté ou Riles. 70% du peuple qui dit non au respect des limites planétaires, c'est ça le secret du consensus suisse. Être de droite. Voilà. Concrètement, l'initiative demandait à inscrire dans la constitution le respect des limites naturelles de la planète d'ici les 10 prochaines années. Et l'argument avancé par les opposants était non mais 10 ans c'est trop court. Quoi. Il nous faut plus de temps. Il y a tous les scientifiques du GIEC qui ont repris un Xanax en lisant cette phrase. Il nous faut plus de temps. Oh là là, mais les Suisses, même avec la transition écologique, on est lent, quoi. Je veux dire, il n'y a pas le feu au lac. Pas encore, Heidi, mais ta montagne, elle va bientôt crever, oui. Notre ministre de l'Environnement, Albert Rochetier, a déclaré « Ce nom n'est certainement pas un nom à la protection de l'environnement ». Putain, mais même avec le consentement, on est en retard, quoi. Un nom est un nom, monsieur Rochety. Je dois quand même préciser que le résultat reflète pas forcément l'avis de toute la population, puisque le taux de participation était de 38%. Les 62 autres pourcents étaient encore en chemin vers les bureaux de vote quand ils ont parlé. Tellement on est lent, quoi. Au fond, ça m'étonne pas trop que cette initiative ne soit pas passée. Elle voulait réduire notre consommation pour ne pas utiliser plus de ressources que notre planète ne peut en reconstituer. Au moins réduire, les politiciens de droite avaient arrêté d'écouter, quoi. Ah bah ça demande trop de changement. Albert Rochety, il est tranquille en t-shirt en plein hiver à Gstaad en train de siroter son après-cotine. Il se dit attends, mais ça se réchauffe enfin, laisse-moi profiter. C'est pas maintenant qu'il faut que changer quoi que ce soit, quoi. Alors pour dénigrer l'initiative, il y a même un élu de la droite radicale qui a dit que si on votait oui, la Suisse aura un niveau économique similaire à Haïti ou Madagascar. Ouf. Le culot de donner comme exemple des pays affectés par quoi ? Le réchauffement climatique, voilà. Il aurait dû dire la France, ça aurait fait tout aussi peur, quoi. Ah mais ça, en Suisse, c'est l'argument massue pour refuser n'importe quelle votation. Hein. Vous savez que si on vote ça,
dans quelques années, on est la France. Paf ! La votation est refusée. Alors, est-ce que la presse suisse a critiqué ce résultat ? Et bah, du côté alémanique, le Tagesanzeiger a dit « Les Suisses ne veulent pas adapter drastiquement leur mode de vie pour prendre soin de la planète. » Je me suis dit « Ah, enfin un média qui dénonce ben !» oui. Et il conclut l'article en jugeant le résultat du vote compréhensible. C'est le truc le plus suisse que j'ai lu, quoi. En attendant, comme dit Natacha Gondran, professeure en évaluation environnementale, on surexploite les ressources naturelles en vivant à crédit, et bientôt, la banque va nous mettre dehors. Vous vous rendez compte ? Des Suisses vont se faire virer d'une banque. Si ça, c'est pas le signe de la fin du monde.
Formule est belle, en tout cas, ouais.
Bruno Pecky,
bah ouais, Bruno.
À Paris, à la petite
loge. Il dénonce, mais il joue.
Le vendredi 21 février.
Tous les soirs à 19h, et ce jusqu'au mois de mai, au Théâtre de la Renaissance, Jacques Weber et Elodie Navarre sont nos invités. Nous parlons de L'Injuste, cette pièce construite autour, comme on l'a entendu avec Alexandre Amiel, l'un de ses auteurs, autour d'une histoire vraie, mais avec une part de fiction, de suspense, de revirement, de situation et de découverte et de révélation qui rajoute encore plus à l'attention du propos. Tanguy Passureau, de quoi vas-tu parler dans la prochaine demi-heure ?
Je vais parler du Golfe du Mexique qui aux États-Unis s'appelle désormais Golfe de l'Amérique, sauf qu'au Mexique, ça s'appelle toujours Golfe du Mexique. En fait, chacun fait ce qu'il veut avec la géo, c'est magique aujourd'hui.
Bonjour. Bonjour. Daniel Morin.
Coucou.
Et nos invités, Elodie Navarre et Jacques Weber.
Oh France Inter, bande originale, Leïla Cadour et Nagui. Ah.
Avec cette pièce où on se situe donc en 1993, on a une sorte d'espoir de paix dans le monde. Une journaliste de la presse israélienne, une journaliste juive de la presse israélienne vient. Ce détail est important parce qu'elle vient dans un bunker d'un nazi. Ou en tout cas, même s'il ne dit pas clairement qu'il est nazi, en tout cas il est le complice de tous les nazis possibles et imaginables, jusqu'à être l'ami d'Hitler, jusqu'à défendre et financer les procès des nazis qui ont été arrêtés ensuite, et d'avoir, ouais, banqué, c'est-à-dire qu'on se demande même s'il n'a pas profité de l'argent et de la force des nazis pour se faire lui aussi sa fortune dans son coin.
Oui, forcément, mais je crois que c'était un idéaliste total et fanatique, et je pense que...
Il a des convictions politiques.
Je crois que une part de sa fortune a été dédiée au parti nazi, à ses activités.
Oui, parce que c'était son intérêt.
À d'autres partis.
Parce que c'était son intérêt.
Oui, enfin, je crois que c'est mélangé. Je crois que
c'est un banquier qui avait envie de faire de l'argent, même pour lui. Mais quoi.
Par contre, vous disiez, on ne sait pas trop s'il est nazi. Il le dit très clairement à la fin. Il dit nazi, je suis, nazi, je reste. C'est glaçant, quoi.
Y compris de dire cette phrase quand on est acteur sur scène.
Mais vous savez, on en dit tellement. C'est ce que je dis toujours.
Est-ce qu'on doit aimer le personnage ?
Ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on joue des grands personnages horribles, il y a encore une fois la distance du temps. Mais lorsque le temps est très très raccourci, voire même c'est notre temps, là d'un seul coup, ça fait peur et ça interroge beaucoup plus directement les gens maintenant.
Mais il faut défendre son personnage.
Ah ben une fois que je suis sur scène, je suis totalement convaincu. Jouvet parlait des personnages, il y avait la série des convaincus. Et lui est totalement un être convaincu, de A jusqu'à Z. Il n'y a pas une faille dans son raisonnement.
C'est ça
pas autre chose.
Et c'est ça qui trouble la journaliste comme
C'est ce qu'il a fait tressailler, c'est-à-dire la manière dont il parle de la race juive, les mots qu'il emploie sont ignobles. Et elle doit rester face à lui et se dire... Ça n'est pas grave, j'encaisse, je ne réagis pas, j'attends.
Elle doit garder son calme. Elle va avoir du mal à garder ce calme.
Elle va avoir du mal, oui.
Parce que ça monte.
Parce qu'il va de plus en plus loin. Comme il voit qu'elle ne réagit pas, qu'elle ne répond pas, il se dit je peux aller plus loin. Et plus il me provoque, et à un moment donné, ça n'est plus possible. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est le spectateur qui réagit pour moi.
Mais elle a quand même des atouts, elle a des cartouches, elle sort ses dossiers au fur et à mesure et elle dit qu'avez-vous à répondre ? Et là, elle réussit à le faire douter et à le troubler lui aussi. Oui, mais elle le trouble elle aussi à son tour.
C'est-à-dire que quand il voit qu'elle a autant de dossiers sur lui et tout cet argent pour financer les actions des nationalismes arabes, il a quand même blanchi de l'argent des camps de concentration pour les faire passer en Suisse. et ensuite les envoyer dans les pays musulmans. Enfin, je veux dire, il a quand même fait des transactions hallucinantes. Et ça, c'est les hommes de l'ombre. Il doit y en avoir beaucoup encore maintenant.
Ce trouble est accentué entre les deux. Chacun va semer le trouble dans l'esprit de l'autre dans cette joute verbale.
Ouais,
c'est
ça qui est éminemment théâtral, d'ailleurs. Parce que tout est sur la frange, comme ça. Mmh. Ça, c'est vraiment intéressant.
Et puis c'est intéressant aussi de voir que le Mossad n'est pas étranger dans l'histoire et qu'on ne sait jamais trop quels sont intérêts d'un,
c'est aussi
d'un pays, d'inciter à d'autres actions dans d'autres. Et voilà, c'est un billard à trois bandes, en fait.
C'est aussi intéressant de se rendre compte que quand il raconte qu'il a rencontré Hitler, c'est un enfant.
Oui.
Et ça renvoie terrible, parce que si vous dites à un petit enfant de Palestine que l'Israélien est un horrible individu, pendant des années, il va bien sûr penser...
Il va grandir
avec ça. Ouais.
Et si vous dites à un Israélien que la Palestine, c'est le diable, c'est la même...
Pareil.
Et ça c'est des choses qui sont extrêmement prégnantes, quoi, qui interrogent. On sent qu'il a été fasciné comme un gamin. Il le raconte, j'étais gamin, j'avais 15 ans, puis j'ai vu ce type qui m'a totalement fasciné. Et ça, quand je raconte ça, je dois dire ça m'intéresse beaucoup.
Ouais.
Quoi. C'est un personnage complet.
C'est Ginette Colinka qui, un jour dans une interview, puisqu'elle a été dans ces camps de la mort, disait « J'aimerais comprendre, j'aimerais que quelqu'un m'explique pourquoi il est antisémite. » Et il y a une personne sur Internet qui a, et c'est Richard Colinka d'ailleurs qui m'a envoyé cette vidéo, qui est face à son iPhone, dit « Voilà, je suis musulman, vous voulez savoir pourquoi on n'aime pas les juifs, moi je vais vous dire pourquoi je n'aime pas les juifs. » Et là on se dit « Mais c'est pas possible, quoi. Il y a un mec face caméra qui va dire ça. » Et en fait, il avance dans son raisonnement et dans l'horreur. Et en fait, c'était vraiment un compte à rebours pour remonter. Et il arrive à cette phrase en disant « Parce qu'on m'a toujours dit que je devais détester les juifs. » Et il dit « Madame, merci, parce que je n'ai pas d'autres arguments à vous donner. Et vous avez raison. Voilà. Et je regrette d'avoir été antisémite. Et je le regrette. On m'a simplement mis ça dans le crâne depuis... »
C'est ce qui se passe dans beaucoup de monde, d'ailleurs.
Et l'autre,
d'ailleurs, il faut lire Riyad Satouf, « Que faire des juifs ?»
Absolument.
Qui vient de sortir, ouais.
On parle...
Joanne Sfar.
C'est Joanne Sfar.
Excusez-moi.
C'est vrai. Mais Riyad aborde aussi beaucoup le sujet, c'est vrai. Mais sur la manière aussi dont quelqu'un est acculé à devoir se justifier, il y a aussi cette fameuse phrase que l'on entend souvent, c'est « Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous pour me reprocher quelque chose ?» Et il va lui retourner la situation en l'agressant et en ayant fait finalement tout un travail aussi de recherche. Pourquoi l'a-t-il convoqué, elle ? Pourquoi elle a le droit de venir dans son bunker ? Et c'est là où il y a ce retournement de situation dont on ne va pas parler, mais que vous vivrez au théâtre de la Renaissance dans L'Injuste. Voici Monsieur Tanguy Pastureau.
Bravo. En fait, Trump, c'est pas un homme, c'est un algorithme qui mène une expérience capillaire improbable. Il fonctionne comme les algorithmes. Tous les jours, il fait 3-4 propositions, plus dingues les unes que les autres. Résultat sur le nombre, on en entend forcément une, et on se dit, il est là, papa. En fait, souvent, il dit pas grand-chose. Exemple sur l'Ukraine, il a dit, l'Ukraine pourrait devenir russe un jour, ou elle pourrait ne pas devenir russe. C'est moins clair que quand on répond, je vous aime tous les deux, au gosse qui demande si on le préfère à son frère. Mais Poutine y voit un soutien, et Zelensky aussi. Il a même incité les Occidentaux à investir en Ukraine, parce que là-bas, il y a des terres rares. Ce qui ne signifie pas qu'à l'amour est dans le pré, ils ont tourné des inédits avec Karine Le Marchand qui fait moins de 50% sur les éleveurs avant de se barrer si Hanouna débarque. Non, terre rare, ça veut dire qu'il y a des minéraux dans le sol pour fabriquer nos iPhones et nos serveurs. Il en faut toujours plus. Sinon, ChatGPT, à terme, ce sera juste votre félin femelle qui a mal assimilé ces nouvelles croquettes. Trump, les terres rares en Ukraine, il les veut. Il en a repéré aussi en Haïti, non exploité, puisqu'ils sont occupés à survivre. Au Groenland également, c'est pour ça qu'il veut ce territoire. Pas par passion. Tu te doutes bien qu'un type installé à Miami, qui se dope aux carotènes pour avoir toute l'année la tête d'une citrouille, son élément préféré, c'est pas la banquise. L'Algérie également a des terres rares. 20% de la réserve mondiale. Et nous, comme des blaireaux, on s'est fâchés avec eux. Quand ils nous vendaient des oranges à jus, notre relation était au beau fixe. Maintenant qu'on sait que c'est le nouveau Dubaï, on leur fait la tête. Le sens du timing. Et nous, en France, on a
un peu de terres rares, surtout en Bretagne. L'argent va couler d'un coup quand on va se mettre à forer. Je peux dire que Madame Loïc, son fromage fouetté, d'ici 15 ans, elle va le distribuer dans les Leclerc en Maserati MC20. En fait, la tech a pris le contrôle de nos vies, totalement, même Daniel Morin, qui dans sa tête vit à l'ère du silex. Il traîne ses collaborateurs par les cheveux en criant « il faut bien que ça serve à quelque chose, ces petits machins que vous, autres, vous avez sur la tête ». Même Daniel, notre vieux loup en sucre, c'est véridique, vient d'ouvrir un compte Instagram. J'ai regardé, il suit 4 personnes en tout, dont moi, hein, vous autres, ils vous méprisent. Voilà, je le cite. Vous savez, avant, les combats étaient philosophiques, maintenant c'est Musk et Xavier Niel qui s'insultent sur X. Et Daniel, il a eu envie de ce monde-là. Il restait plus que lui et Daniel Evenou à pas avoir de réseau. Et donc, il nous faut ces minéraux toujours en plus grande quantité pour continuer à fabriquer des ordis et faire tourner l'IA qui est un gouffre énergétique. Le forage en est un aussi. En fait, à la fin, on sera tous morts et il restera que deux robots qui discutent. Puis Hugo Frey sortira de dessous le sable en disant « Ah non, moi on avait dit que je mourrais pas ». Il y a juste pour le golfe du Mexique que je me pose la question, parce que j'ai cherché, il n'y a pas de terre rare quand on fouille sous les poissons, il y a du pétrole et du gaz, mais déjà en cours d'exploitation. Et pourtant, Trump a exigé que le golfe du Mexique s'appelle « Golfe de l'Amérique ». Alors dans l'heure, Google Maps a dit « Ok, c'est bon, ça s'appelle comme ça ». Ils ont rectifié le nom sur l'appli, sauf que sur Google Maps au Mexique, ils ont laissé « Golfe du Mexique » et que nous, on a carrément les deux. Donc révélation dans le monde, révolution d'ailleurs, dans le monde de la géographie, il n'y a une vérité, mais plusieurs. Je propose donc que le Mont Saint-Michel soit considéré à la fois en Bretagne et en Normandie, comme ça on règle enfin cette histoire, et même en Guadeloupe, si on veut. J'ai regardé, il y a 6400 km entre les deux, c'est rien, c'est la distance moyenne qui sépare deux militants socialistes aujourd'hui. Pareil, je demande à Google Maps, méfiez-vous, je suis guère plus équilibré que Donald Trump, et comme lui, j'ai des appuis dans le monde de la tech, je suis ami avec Daniel Morin, 660 followers sur Insta actuellement, l'Elon Musk au livret A en rade. Je demande à Google Maps de mettre la maison de la radio dans le 15e arrondissement. Le 15e, c'est populaire. C'est la gouaille, ça pue le diesel et la viande avariée. À côté de là où nous, on travaille, le 15e, c'est Calcutta. Parce que nous, on est dans le 16e. Et ça ne colle pas avec les gens qui sont dans le bâtiment. 60 ans de lutte pour rester un bastion actif de la gauche et on se retrouve dans le quartier des Bourges. Moi, ça va. Mais j'ai des collègues qui entrent à la maison de la radio avec des capuches pour pas être reconnus. Évidemment, moi, je crie « Hé, Nagui !» Ils filent en disant « Mais en fait, tais-toi. » Et en fait, je crois qu'il faut aller plus loin. La géographie, c'est un premier pas. On doit aussi refaire l'histoire. Le siège de Soissons en 1870, qui a vu les Allemands gagner. Allez hop, un petit tour sur Wikipédia, on écrit victoire de Soissons, 4-0. Les gosses à l'école pensant que c'est du foot, ce sera plus facile à mémoriser pour eux. Et à Soissons, les gens marcheront la tête haute, le poitrail gonflé comme un influenceur qui sort de chez Basic Fit. La fierté retrouvée. De même l'Eurovision. En 2024, c'est la Suisse qui a gagné. Bon bah, qu'est-ce qu'un Suisse sinon un Français qui s'ennuie et qui mange trop de fromage? Prenez Bruno Pecky, notre ami à qui le responsable des stagiaires de 3e à France Inter a demandé tout à l'heure de rejoindre les autres. Et bon, il est comme nous. Je veux dire, il y a pas. Donc techniquement, on a gagné. D'ailleurs, sur Google Maps, Suisse, je trouve que ça devrait s'écrire F-R-A-N-C-E. D'autant que dans les Alpes suisses, il y a des terres rares. On en revient toujours à ça. Zinc, fluorine, tungstène. Donc on pourrait y aller, creuser dans le sol, de manière écologique. Hein. On attache des marmottes à qui on a fait avoir de la Red Bull au bout de bâton de bois. Et zou, on fort. Ah, la joie, grâce à Internet, de ne plus avoir qui que ce soit dans le monde qui se sente frustré. J'ai fait refaire ma page Wikipédia, j'ai écrit que j'étais Dieu. Voilà. Et le golfe du Morbihan avec Laurie Tillman, on a fait pression sur Google Maps, dans le Finistère, ce serait écrit golfe du Finistère. Voilà. Allez, je vous laisse, je vais creuser, si ça se trouve sous Oldelef, il y a du cobalt. On sait pas.
Sur scène Tanguy Pastureau, le 21 février à Toulon, le 19 mars, il sera à Yvetot.
Jusqu'au 4 mai, donc, Élodie Navarre et Jacques Weber sur scène dans L'Injuste, la pièce d'Alexandre Amiel, Yael Berdugo, Jean-Philippe Daguerre et Alexis Kébas, mise en scène par Julien Cibre au Théâtre de la Renaissance. D'autres événements culturels, Leïla.
On va parler d'un roman, Dieu est né en exil, de Vintila Horia, qui a été pris Goncourt en 1960. C'est un livre qui va être réédité, jusque-là tout va bien, mais pourtant la réédition de cet auteur roumain soulève des questions.
C'est son passé?
Il a tweeté? Non.
Il n'a pas tweeté. Il n'avait pas ça à sa disposition.
Il y en a des nazis?
Absolument.
Ah bah décidément, il y en a.
Bonne réponse. Que s'est-il passé le 21 novembre 1960? Il remporte 6 voix sur 10 au Goncourt. À l'époque, le Goncourt accueille le lauréat une semaine après le vote. Mais là, il ne sera pas reçu puisque 3 jours ou 4 jours après le vote, l'Humanité titre pro-hitlérien antisémite, tel est le lauréat du Goncourt 1960. Alors, en cherchant, on détermine ensuite qu'il a tenu des propos antisémites, mais qu'en revanche, il n'y a pas de traces de propos ou de thèses antisémites dans ses textes de fiction. Voilà pourquoi une maison d'édition contemporaine a décidé de rééditer ce texte qui a quand même été promu et distingué prix Goncourt en 1960 et décide de le redonner à lire aux lecteurs, tout simplement, disant que Gallimard édite bien Céline sans pour autant partager son idéologie, donc pourquoi pas rééditer.
Il y a une mise en garde aussi.
Je ne sais pas s'il y aura une mise en garde, peut-être que ça va être entouré, mais en tout cas le texte ne dit pas quoi que ce soit d'antisémite dans son contenu. Donc on peut le lire comme un roman comme un autre, simplement l'auteur, et il serait bon d'avoir peut-être un petit appareil critique pour savoir qu'il a eu des positions plus ou moins gênantes. Est-ce que dans vos lectures, c'est un sujet, ça peut vous gêner de vous dire j'ai pas très très envie de redécouvrir ou découvrir Céline maintenant qu'on est complètement au clair sur son positionnement pendant la guerre, si tant est qu'il y a eu un doute.
Ça me gêne pas du tout, moi. Ouais. Au contraire, je trouve qu'on doit tout lire. Mm-hmm. Même si parfois ça fait mal au cœur.
Oui.
Mais et dans le cas de Céline, c'est très...
C'est douloureux.
C'est très douloureux. Et en même temps, il y a un style qui prend en compte toute l'humanité d'une façon absolument géniale. Oui. C'est là où le monde et les êtres humains sont complexes.
Oui.
C'est fou. On parle beaucoup d'antisémitisme. Je voudrais quand même dire un truc. C'est qu'au moment même où on dit que Madame Le Pen, finalement, c'est quelqu'un de tout à fait...
Respectable.
Qui a dit ça?
Ben, ça n'arrête pas. Oui, non, mais ça n'arrête pas. Ça fait partie du monde politique, etc. Mm-hmm. Et puis, on la voit au premier rang, oui, dédiabolisation. Puis, elle est au premier rang de la réunion de fachos absolument effroyables qui sont en train de mettre la main sur l'Europe. Et les gens ne se rendent pas compte de ça. Enfin, il y a un moment, faut... Mais ouvrez les yeux, réveillez-vous. Cette réunion en Espagne, là, c'était absolument... Mais à vomir.
Mais la difficulté, Jacques Weber,
triomphant. Oui. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas. Enfin,
la difficulté, Jacques Weber, et qui est soulevée sans cesse, c'est que à présent et depuis quelque temps, de toute façon, le Rassemblement national qui siège à l'Assemblée nationale fait donc partie de l'arc républicain. C'est comme ça que c'est présenté. Il y a des électeurs en France qui votent pour le Rassemblement national. Donc,
c'est ça qui est complexe. Et je n'ai pas de réponse. Je suis pas politologue. Je suis pas j'ai pas la compétence pour répondre bien à cette question, mais ce qui est sûr, c'est que à l'heure actuelle, qui est-ce qui engendre les monstres? C'est
nous,
la démocratie, c'est le peuple. Or, le vote, moi, à une époque, je me souviens que le vote, c'est ça, on se constituait une opinion. Je me souviens, on employait le terme opinion, et puis il y avait des encadrements, qu'on le veuille ou non, il y avait des syndicats, il y avait le PC, tout ça qui jouait énormément. Alors, bon, après. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que c'est pulsionnel, avec toutes les histoires des réseaux sociaux, des trucs, des machins. On est totalement abruti par le commentaire qui dépasse l'événement. Et c'est lui, je l'aime pas. Ah, lui, c'est un con. Ah, lui, il va réussir. Il va remettre un peu de l'ordre. J'entends ça à propos de Trump.
Mais est-ce que vous pensez qu'il y a 50 ans, les avis étaient aussi avisés que ça?
Je pense que.
Ou c'est parce qu'on entendait moins les gens parler.
Ça, mais je pense qu'il y avait quand même une maturité politique en France qu'il n'y a plus du tout.
On votait pas pour des personnes.
Un intérêt pour la politique,
Intérêt, mais il y avait même une...
Adolf Hitler a été élu. Adolf Hitler a été élu.
Oui, non, mais justement, donc ça pose bien le problème de la représentation politique nécessaire pour que vous existiez, pour que les gens vous connaissent. Et en même temps, qu'est-ce que représente le vote? Et c'est le vote qui engendre les monstres. Et c'est eux qui ont voté pour Hitler. C'est eux qui votent maintenant pour Trump.
Ou qui ne votent pas.
C'est vraiment très, très anxiogène. Enfin, vraiment. Alors, la preuve en est, c'est que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comiques à votre table pour un petit peu.
Des comiques.
C'est des rigolos. Ah, bah, moi, ils m'ont fait rire.
Les intermittents.
Mais qui votent Alexandre Droit.
Attention, monsieur. Ils sont pas droits, monsieur.
Non.
C'est leur vrai. C'est en vraie vie.
Moi, je suis pas.
Non, je vous ai pas mis avec eux. Non, mais c'est pas méprisant du tout.
Non, pas du tout.
Je blague. Autre... Mais en tout cas, vous êtes inquiet pour l'avenir des élections, en fait. C'est ce que vous voulez dire, ce que vous ressentez.
Non, je suis quasiment inquiet pour la démocratie dans son ensemble. Je suis très inquiet pour le monde. Donc, on parlait d'écologie, on l'a laissé comme ça glisser. Je signale quand même que Bayrou, dans son déclaration d'intention, n'a pas dit un mot sur l'écologie. c'est quand même catastrophique. C'est, vous rendez compte.
Il a parlé de submersion.
Ouais, donc attendez, on rigole.
C'était pas
l'immigration. C'est il y a 40 ans. C'est comme si là, il y avait le feu ici, qu'on continue de faire l'émission.
Il a pas parlé d'écologie, mais lui-même se recycle depuis 40 ans.
C'est le champion.
Autre question, on cherche une actrice. Une actrice qui est sur scène et qui a découvert très très jeune une passion pour Baudelaire. Elle avait 7 ans. Et une passion tout court pour les textes. Elle s'appelle Simone Dupuis. Elle a 98 ans. C'est la doyenne des comédiennes françaises. Vous la connaissez, Simone Dupuis, c'est son nom véritable, mais son nom de scène, ce n'est pas celui-ci.
Clara Morgan.
98 ans. Elle est en ce moment sur la scène du théâtre de Poche-Montparnasse. C'est une grande dame de théâtre. Une grande dame.
Oui. Bien sûr, Judith Magre.
Absolument, c'est Judith Magre. Judith Magre qui est sur scène, qui, en effet, qui dit du Baudelaire sur scène et qui raconte dans une interview à quel point c'est chiant de vieillir, c'est moche parce qu'on baisse plus. Mais en même temps, le texte reste là et le texte lui permet de continuer à vibrer sur scène tous les soirs 98 ans.
Et à boire son champagne en sortant.
Ah, voilà, l'hygiène de vie, c'est important.
C'est ça la recette. Voilà.
En tout cas, elle boit du champagne dans son bain en nous écoutant. La dernière fois qu'elle était venue,
elle avait dit ça. C'est vrai,
on l'embrasse. Voilà.
Judith Magre, c'est quand même un exemple extra à citer.
Ah bah oui. Oui, quand on parle de monstre, là, on peut. Là, oui,
elle, monstre oui, sacré.
Oui, totalement. Elle a traversé toutes les époques. Ouais. Elle a joué tous les styles.
C'est vrai.
Elle a été aussi bien dans le privé que dans le public. Elle n'a pas eu de frontières entre les familles théâtrales, ce qui arrive hélas trop souvent. Et puis, c'est une actrice hors norme. Quoi.
Et elle continue sur scène. Le public est toujours fidèle à Judith Magre et vient l'applaudir. Voilà.
Quels sont les projets, Élodie? On a pris connaissance d'un film ou un téléfilm, Résistante.
Résistante de Renaud Bertrand, oui.
C'est ça, avec Lynn Renaud.
Jonathan Zakaï.
Très bien.
Patrice Falker, oui.
Et d'autres envies de refaire un seul en scène ou pas?
Alors, j'ai une proposition, mais je ne sais pas encore si j'y retourne seul.
Jacques Weber, quels sont vos envies, vos rêves?
Je ne sais pas si je peux encore en parler, mais enfin, il semblerait que je tourne le prochain film, et j'en serais fou de bonheur, d'Agnès Jaoui, qui est une femme pour laquelle j'ai une immense admiration. Je ne parle même pas de, hélas, de cet homme qui a disparu, de
Jean-Pierre Bacri.
Et puis après, je rejoue une pièce de Pascal Rambert, qui est l'auteur quand même, il faut le rappeler, l'auteur contemporain en français le plus joué au monde, et qui fait une pièce plus chorale que ce que je n'ai fait avant, conséquence, et qui sera représentée au Théâtre de la Ville.
Parfait.
Puis après, je ne sais plus, il y a plein de trucs.
Non, mais c'est déjà beaucoup. Au Théâtre de la Renaissance pour l'instant, jusqu'au mois de mai.
Je vais faire comme Judith Mac, tu sais, tu vas me revoir à 98 ans.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Absolument, déjà, désolé pour Alexandre Amiel, l'auteur et producteur de la pièce L'Injuste, qui, après avoir compris dans cette émission que Jacques Weber pensait que le twist final était une danse et qu'il devait à présent se trémousser à la fin de la pièce, Alexandre est mort de trouille, je l'ai vu tout à l'heure dans la loge. Désolé pour Bruno Pecky, notre petit chroniqueur, jeune chroniqueur dont le physique national-socialiste a été moqué, stigmatisé par Lisa Dalmoitier. Nono, baisse pas la tête, revanche, baisse le bras, s'il te plaît. Nono, t'es beau, t'es jeune, tu sens bon, viens à faire un sauna. Désolé pour nos amis. Nos amis auditeurs nazis, auditeurs qui n'ont pas apprécié ce petit ton style le nazisme, Alors, je suis d'accord avec vous, c'était choquant. Rassurez-vous, les amis, demain encore, et je le tire, on va parler du film Staline, je suis ta copine, et la semaine prochaine sera consacrée entièrement aux années de la Win, aux années Poutine.